Des poches sous les yeux, l'interview, en partenariat avec la boîte à livres.
Lola Lafont, bonjour. Donc, merci de prendre quelques minutes pour nous parler de votre livre. Vous venez à la boîte à livres, vous rencontrez donc vos lecteurs dans quelques minutes. Et donc, alors moi déjà, tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai dévoré votre ouvrage, qui est vraiment fascinant de A à Z. Et alors, pour les gens qui éventuellement vivraient dans une grotte depuis des années, qui n'auraient jamais entendu parler de votre livre, alors cette petite communiste qui ne souriait jamais, de qui s'agit-il ?
Il s'agit d'un roman autour de la personnalité bien réelle de la gymnaste roumaine Nadia Comăneci. Et le roman suit son parcours depuis sa découverte en 69 jusqu'à sa fuite de Roumanie en 90, puisqu'en parallèle, c'est aussi l'histoire de l'Europe quand elle était partagée en deux.
Alors, je pense qu'on a dû vous poser 15 000 fois la question, mais je vais tenter une fois de plus. Pourquoi Nadia Comăneci ? Alors, est-ce que c'est parce que c'est une héroïne de roman parfaite ?
C'est vrai que c'est drôle parce qu'on me pose toujours cette question, comme si c'était un sujet étonnant de roman. D'abord, il n'y a pas de mauvais sujet de roman. Et pour moi, c'est pas tellement étonnant dans la mesure où j'ai passé mon enfance en Roumanie. Et aussi parce qu'elle représente vraiment la cristallisation des sujets que je traite d'habitude. Donc, que ce soit le corps des femmes dans notre société, et enfin en général, jugé, noté, et examiné. Et le thème des systèmes politiques aussi, Est-Ouest, par rapport aux femmes souvent. Et puis le thème du mouvement qui m'intéresse toujours beaucoup, que ce soit la danse ou là c'est la gymnastique. Donc en fait, pourquoi Nadia Comăneci ? Parce que c'était vraiment tout ça à la fois.
Donc c'était une évidence en fait pour vous.
Bah, non, bah, finalement pas tout de suite, hein, mais parce que il a fallu tellement de documentation et tellement oublier la documentation pour passer au romanesque que c'était pas si évident que ça.
Alors justement, c'est une de mes questions. Vous me devancez, mais on va y venir, parce que moi, ce qui m'a impressionné à la lecture de votre ouvrage, qui effectivement est un roman, c'est d'imaginer le travail de recherche que vous avez dû faire, j'imagine, entre les images, les archives, presque un travail d'historien, en fait. Alors, ça s'est passé comment ?
Ça s'est passé sur 2 ans. Et j'ai la chance de pouvoir lire en roumain, et donc j'ai eu accès à la documentation française, américaine et roumaine, et donc ça me permettait d'avoir vraiment trois visions très différentes de l'histoire, et c'était un petit peu le cœur du roman finalement, d'examiner comment on fait pour écrire la réalité. Est-ce qu'il y a une vérité, puisque là il y a une narratrice qui veut écrire le roman sur Nadia et qui décide d'envoyer chaque chapitre à la gymnaste, et finalement la narratrice croit qu'elle a la vérité, elle est occidentale, et Nadia a sa vérité, et moi j'étais toujours entre les deux. Et c'était un peu ma position de me retrouver tout le temps, confrontée à des documents qui démentaient ce que j'avais lu la veille, et j'ai vraiment examiné ça voilà, comme un processus littéraire de qu'est-ce que c'est les archives, quoi.
En parlant de processus littéraire, vous auriez pu choisir d'écrire une biographie classique. Vous avez en fait opté pour le mode romanesque.
Oui.
Alors, pourquoi ce choix ? Et au niveau de l'écriture, qu'est-ce que ça pose comme contrainte quand on s'empare d'un être réel et vivant, en plus ?
Ben, le roman, c'était évident parce que j'écris des romans. Et que donc, je ne me suis pas posé la question. Et ce que j'aime, c'est aussi la forme littéraire. Donc, une bio ne m'aurait pas intéressée parce qu'il aurait fallu me restreindre au niveau de la construction, du style. Alors que là, je voulais pouvoir délirer. je pense pas que je me sois confrontée à la vraie personne, c'est-à-dire j'ai interrogé l'icône, et puis mon souvenir. Et donc je suis face à cette photo, je suis face à ces images, à ces vidéos, c'est pas la vraie qui est en face de moi, elle n'est pas là. Et le roman s'arrête en 90, je pense que si j'avais continué son parcours jusqu'en 2014, ça aurait été une bio. Mais là, non, et... Du coup, je me sentais totalement libre. Le roman peut intégrer toutes les formes, donc que ce soit les décrets de Ceausescu, que ce soit les coupures de presse, que ce soit effectivement ce qui a été dit, que ce soit des descriptions de vidéos. Je me suis sentie avec beaucoup, beaucoup de joujou. Et une fois que j'ai eu tout ça, il a fallu tout oublier pendant quelques mois.
Alors, un des thèmes centraux de votre ouvrage, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, le corps, ouais. Et notamment, enfin, essentiellement le corps féminin. Ouais. Pourquoi le choix de ce thème central ? Et est-ce que, au-delà, on peut parler de thème féministe dans la façon dont vous l'envisagez ?
Bah, pourquoi ? Je pense que c'est déjà le thème de tous mes romans. Donc bon, tous mes romans ont eu à trace ce thème-là. Deux romans tournés autour du viol. Un autre était vraiment autour de l'espace que les femmes s'autorisent et ce à quoi elles sont autorisées. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis, je pense qu'on écrit toujours de sa place. Moi, incontestablement, je suis une femme et donc j'écris à partir aussi de ce que je ressens et de ce que je sais. Et ça, je sais.
Voilà. Et alors, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'ambivalence dans la façon dont vous abordez ce thème, puisqu'effectivement, c'est, comme vous l'avez dit, un corps examiné, disséqué, martyrisé même. Ouais. Et en même temps, vous montrez que c'est un peu les derniers moments où on n'a pas traité le corps de la femme de façon sexuelle. Alors, vous comparez Nadia Comaneci, par exemple, à Jodie Foster ou Brooke Shields à la même époque. Donc, il y a vraiment une ambivalence par rapport à ça.
Oui, il y a une ambivalence parce que c'est un roman de questions et pas de réponses. Et effectivement, au moment en 77, où après Montréal, elle est une idole occidentale, je me suis rendu compte que c'est la dernière fois où une adolescente devient une icône sans être sexuée. C'est-à-dire que c'est vraiment une sorte de... Ce qu'on célèbre, c'est une sorte d'ardeur au travail, de visage démaquillé, de corps très puissant. Et en ça, c'est assez subversif, c'est-à-dire que finalement, les petites filles, tout d'un coup, sont contaminées par l'envie de courir vite, ce qui me paraissait pas anodin, c'est-à-dire que effectivement, qu'une fille rêve de courir vite et puis d'être assez forte pour faire trois sauts périlleux, c'est autre chose que de désirer peser 34 kilos pour être mannequin, quoi. C'est tout à fait autre chose. Donc, oui. En ce sens, oui, c'est un point de vue féministe sur cette affaire. Y compris quand j'examine la haine que son corps devenu femme provoque chez les commentateurs hommes. Et ça, vraiment, j'ai même pas voulu rajouter un mot. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je me trouvais devant des termes tellement violents que j'avais du mal à y croire, quoi.
Oui, effectivement, un des extraits, enfin, moi qui m'a le plus marqué, c'est quand vous décrivez justement la mutation de ce corps entre l'enfant qu'elle était, ouais. La femme qu'elle devient. Et effectivement, il y a vraiment une réflexion sur cette transformation qu'elle n'arrive pas à maîtriser, oui. Eux non plus, et la haine que ça provoque.
Oui, parce que ça échappe, c'est-à-dire que voilà, c'est son procès en permanence, c'est le procès du corps, c'est leur. Il y a vraiment un amour quasi pédophile dans les articles de 76 sur Montréal, où on célèbre une Lolita, alors qu'elle n'est pas du tout une Lolita, que c'est une athlète. Et puis tout d'un coup, c'est comme l'éditorialiste du New York Times dit quand elle arrive aux États-Unis, elle est devenue comme les autres. Et ça a l'air d'un péché capital, quoi. Et comme il dit, elle sera jugée comme les autres. Il y a quelque chose d'une violence qui est finalement quelque chose aussi. Je me suis dit, plus je travaillais sur elle, et plus j'examinais mon parcours à moi et puis celui de toutes les femmes. Hein. Je veux dire, je me disais, voilà, c'est quoi le passage à le changement de corps et puis le passage au statut de proie officielle, quoi. Et comment on ne s'y attend pas et comment on ne le maîtrise pas et comment on ne le comprend pas et que les autres vous font comprendre avant. C'est-à-dire que le regard des autres est le premier signal que vous avez changé de statut. Et elle, qui est une immense athlète, elle échappera pas au jugement, en fait.
Et alors, par rapport à l'écriture, alors moi, en lisant votre livre, j'ai beaucoup pensé à Courir de Jean Echenoz, ce qui est pour moi un très grand compliment, je tenais à vous le dire, notamment par le travail. Alors moi, je trouve formidable que vous avez fait sur le rythme et où on retrouve vraiment, comme chez Echenoz, ce mimétisme en fait entre le geste que vous décrivez et le rythme de vos phrases. Alors j'imagine que ça a dû être un travail énorme.
Ouais, c'est vrai. Oui, franchement. Il y a eu beaucoup de versions jetées, ce qui n'est pas inhabituel. Mais effectivement, sur trouver le rythme et faire coller le rythme en fait à Nadia, c'est-à-dire on parle d'un corps qui va très très vite, on parle d'un corps affûté, asséché. Et le corps, les mots devaient vraiment faire corps avec elle. Et donc, il a fallu du temps pour que je comprenne ça, que je ne pouvais pas me répandre. Et effectivement, il y a eu un travail qui était principalement de couper, de sans arrêt couper. Je dois avoir plus long en coupe qu'en roman.
Vous pourrez publier les coupes peut-être oui, voilà, un jour.
Bonus track.
Alors, dans le choix du titre, il y a évidemment toute la perspective politique qui est mise en avant, puisqu'on trouve le terme communiste. Effectivement, votre livre, c'est l'histoire d'une femme, mais c'est aussi l'histoire d'un pays, la Roumanie, et l'histoire d'un parti, le Parti communiste. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est la remise en cause, en fait, de l'image que occidentaux nous avons sur à la fois ce pays et puis ce parti. Et est-ce que pour vous, alors qu'avez grandi en Roumanie, c'est une façon de remettre un peu les choses à leur place aussi ?
Oui. Oui, c'est une façon de remettre les choses à leur place et puis d'ouvrir les horizons. C'est-à-dire que on dit qu'il n'y a plus de murs, c'est vrai, mais il y a toujours l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Moi, je vais très souvent en Roumanie et il y a deux mondes. Alors, si on était trash, on dirait qu'il y a l'Europe des pauvres et puis l'autre, quoi. Et donc, le mur n'a pas changé grand-chose. Et puis, finalement, moi, quand je suis arrivée en France, c'est vrai que ça m'a frappée, cette impossibilité qu'il y avait de dire que moi, j'avais pas forcément vécu un cauchemar et puis qu'il y avait des choses qui étaient vraiment bien aussi. Et dans son destin, elle, ça se retrouve vraiment parce que finalement, elle est le produit d'un système communiste. Et elle n'aurait pas pu exister facilement à l'Ouest parce qu'il n'y a pas les structures et que ses parents auraient dû payer des millions, parce que là-bas, c'était gratuit. Et donc, finalement, le monde occidental se met à genoux devant une petite communiste sans vouloir vraiment reconnaître que c'est le produit de ce système. Après, ce qui est intéressant pour moi, c'est de mettre les choses en face à face, c'est-à-dire de démystifier un petit peu certaines choses. Ça ne veut pas dire que j'excuse évidemment le régime de Ceausescu qui a été épouvantable, surtout à partir de 75, ou enfin bon là c'était l'ouverture encore, mais en tout cas les années 80 ont été vraiment terribles. Mais c'est intéressant de pouvoir se détacher de bien, mal, méchant, bien, liberté, oui, d'accord, liberté, alors liberté pour en faire quoi, liberté de quoi, comme elle dit, c'est-à-dire à un moment donné où la narratrice lui dit « Oui, mais alors vous n'avez pas une enfance normale », mais peut-être qu'elle ne voulait pas de ce genre d'enfance normale, peut-être que 15 sortes de cornflakes, c'est pas la liberté, c'est des questions que moi j'aime bien remuer parce que ça a été longuement les miennes pendant l'adolescence en fait.
Et justement, cette subjectivité qui est la vôtre, on la retrouve tout au long du livre, notamment dans ce personnage de la narratrice hein, qui envoie régulièrement ses écrits à Nadia Comaneci. Alors, est-ce que ce livre, c'est aussi une façon de faire un portrait de l'écrivain au travail ?
Oui, un peu, c'est vrai. Même si c'était pas vraiment conscient, c'était déjà par le parcours avec embûche qu'il y avait, c'est-à-dire le fait de me retrouver à Bucarest pour avoir de la documentation, de me rendre compte d'un coup que j'avais écrit deux tiers du roman et que tout était imprégné de l'Ouest et que tout d'un coup j'étais beaucoup trop à l'Ouest et que donc il fallait réécrire de l'autre côté. Et toutes ces errances, en fait, elles sont un peu mises en scène, effectivement, de la même façon quand vous écrivez que... Quand vous écrivez la vie de quelqu'un, en vérité, il y a des choses impossibles. Et donc, vous prenez des options. Moi, je ne voulais pas en prendre. C'est-à-dire que même pour sa fuite, je choisis de mettre toutes les options. Et le portrait de l'écrivain au travail, c'est aussi effectivement le portrait de la réécriture. Quoi. De dire, ben voilà, oui, je fais ça, mais je recommence. Je fais autre chose. Oui.
Vous venez ici pour rencontrer en fait, les jurés du prix des étudiants France Culture Télérama. Et est-ce que vous pouvez me dire en quoi votre livre s'adresse particulièrement à la jeunesse ?
En fait, ce qui me... Évidemment, je ne pensais pas... On s'adresse à tous, à je ne sais pas qui quand on écrit, en fait. Hein, on ne sait pas. C'est un interlocuteur, une interlocutrice invisible. Ce qui est très, très touchant dans la lecture des étudiants, puisque ça fait plusieurs villes, en fait, où je les rencontre, c'est qu'ils ne la connaissent pas, pour la plupart, pour la majorité, et que donc ils abordent le roman comme un roman. Et ça, c'est vraiment chouette, parce qu'on sort du souvenir, du réel, et tout ça, et que là, on est dans la fiction, et qu'on est peut-être un peu plus aussi sur la forme, mais en même temps sur l'interrogation, sur le libéralisme aussi, c'est rigolo, parce que... Bon, pour moi, ça me paraît un peu évident, mais c'est intéressant de se retrouver face à des gens pour qui tout ça était une évidence, en fait, que à l'Est, c'était mal, que c'était raté, tout ça. Moi, je ne dis pas que c'était réussi, je dis il y a eu des choses qui étaient que vous n'avez pas, et c'est dommage, que je pense que vous avez eu plus de difficultés que moi pour certaines choses. Et d'un autre côté, ce qui est toujours un peu rigolo, c'est quand je suis arrivée ici, tout le monde me disait « Oh là là, mais t'étais surveillée tout le temps, tout ça. » Et moi, je voyais les caméras dans les rues, je voyais ces choses absolument hyper, hyper fliquées tout le temps. J'ai envie de dire « Mais en fait, vous êtes juste content d'être surveillée. » Nous, on l'était pas, quoi, mais bon.
Et puis, c'est un roman d'aventure, en fait, aussi.
Ah oui, c'est un roman vraiment rocambolesque. Oui.
Merci beaucoup Lola Lafont et bonne rencontre alors hein, et à bientôt.
C'était l'interview des poches sous les yeux en partenariat avec la boîte à livres. Retrouvez cette interview sur radiobeton.com, despochessousleyeux.fr ou encore la page Facebook des poches sous les yeux.